En ce lundi soir, qui est traditionnellement un soir de football dans la NFL, ben quel moment opportun pour s'entretenir avec Bruno Eppel. Bonsoir Bruno.
Salut Mario.
Mais juste avant la NFL, le Monday Night et les gros matchs du week-end, une réaction au fait que les Alouettes nous déclaraient, nous dévoilaient vendredi en entrevue Patrick Bovin qui nous disait que Kevis Reed sera de retour l'an prochain comme DG des Alouettes car il mérite une vraie chance. Quelle est ta réaction à cette décision?
Ben, c'est clair que de le reconfirmer après ce qu'on vient de vivre dans les 5 ou 6 dernières semaines avec les Alouettes de Montréal, on est comme tous, ouais, wow, OK, mettons qu'il est chanceux d'avoir un vote de confiance à ce moment-ci de sa jeune carrière de DG, parce que c'est sûr que ça va pas très bien. Mais en tant qu'organisation, je me dis, moi, je m'essaie de me mettre de l'autre côté de la clôture puis dire, est-ce qu'ils ont vraiment un choix de pas donner au moins une chance de 12 mois ou d'un an complète à Kevis Reed après avoir fait le ménage complet l'année précédente? C'est peut-être là qu'il y a la logique dans leur décision, mais c'est clair.
Mais parlant de logique,
Bruno, c'est clair que c'est pas basé sur le résultat.
Non, non.
Vraiment, là, le résultat, ça dit bye-bye.
Puis là, il parle de changer une mentalité, une culture, pas d'une culture perdante, qui n'a pas voulu dire ça, mais une culture qui n'est pas une culture gagnante. Mais tu sais, les joueurs qui amenaient nous ont-tu fait gagner davantage?
Non, regarde, là, c'est là où j'accroche un peu, pour être honnête. Les gars que Kevis Reed a amenés, et je vais les nommer, Darren Durant et Ernest Jackson n'ont pas juste contribué au problème. Ils ont été le problème.
Tu sais, tu parlais de logique tout à l'heure, juste pour compléter sur les Alouettes, Bruno. Parce que si tu appliques la même logique qu'ils ont utilisée pour expliquer le congédiement de Jacques Chapdelaine, c'est-à-dire que si on se rend compte que ça s'en va dans la mauvaise direction, on est aussi bien d'apporter le changement tout de suite que de s'enliser, ben applique ça à Kevis Reed puis explique-moi pourquoi tu as une décision différente, là.
Ouais, c'est clair. Il doit y avoir quelque chose qu'on ne sait pas. C'est clair qu'on semble avoir, on croit beaucoup dans ce que Kevis Reed nous compte ou nous raconte ou nous vend du côté de l'organisation des Alouettes. Maintenant, c'est une business de résultats, là. Fait que il faut qu'il commence à amener des joueurs. Tu sais, encore une fois aujourd'hui, je regardais là, sur mes emails puis je voyais des transactions de certaines équipes de la ligue. J'en ai pas vu du côté des Alouettes. On n'amène pas de joueurs. Le directeur général, là, son équipe, elle peut pas être satisfaisante, là, ce qu'il y a sur le terrain, ou même ce qu'il y a en ce moment, là, quand on remplace les vétérans par les recrues, c'est pas des joueurs qui nous impressionnent jusqu'à présent. Voir passer ça sur le fil de presse, puis je le vois pas. Je sais pas si c'est parce qu'ils partagent pas leur information comme les autres équipes, mais je le vois tout simplement pas. Et c'est là, moi, que je trouve que ça devient important, parce que là, ils sont éliminés, les Alouettes, là. Là, faut voir l'an prochain. On a la chance d'avoir 3 semaines d'avance sur les autres équipes. On peut préparer l'an prochain. Amène-moi des joueurs, évalue des joueurs, ça coûtera un peu d'argent. So what? Au moins, ça va donner de l'espoir aux partisans.
Bon, quelques minutes de NFL avant qu'on se quitte ce soir, Bruno. Il y a le match du Monday Night, mais juste avant, retour sur hier, Tom Brady qui signe une 187e victoire en 18 ans de carrière. Mais ça s'est terminé dans une certaine controverse contre les Jets de New York qui se sont vus refuser un toucher.
Ouais, ben écoute, c'est clair que la victoire, c'est sensationnel, son accomplissement, un record. Mais ça s'est fait dans la controverse parce que les Jets ont vu leur allié rapprocher. C'est Ferrin Jenkins marqué un touché, mais juste avant qu'il rentre dans la zone des buts, il y a un joueur des Patriots qui lui a fait perdre le contrôle du ballon. Au moment où il touchait au pylône de la zone des buts, le pylône orange, avant de sortir hors ligne dans la zone des buts, on a perdu le ballon de vue. Ils sont allés à la reprise, les arbitres, et là, on a renversé la décision. Moi, personnellement, je trouve que les Jets se sont fait voler parce que c'est supposé être hors de tout doute. Il n'y a rien dans l'angle que moi j'ai vu, en tout cas, ou les angles que j'ai vus, qui me prouvent qu'il a perdu le contrôle, mais qu'il n'a pas, surtout pas repris le contrôle avant de toucher le fameux pylône. Et tout ce qui se passe après ça ne compte plus normalement. Tout ça pour dire qu'on a appliqué le règlement à la lettre, mais j'ai l'impression que cet hiver, on va revoir ce règlement-là et le corriger. Parce que c'est un vol.
Dans les résultats qu'on n'avait pas tout à fait prévus, quoique c'était pas dans le domaine de l'impossible non plus, les Broncos de Denver qui se font prendre par les Giants de New York et, plus tôt en journée, les Chiefs de Kansas City, toujours privés notamment de Laurent Duvernay-Tardif, qui s'inclinent contre les Steelers de Pittsburgh. Comment les Steelers s'y sont pris pour battre Kansas City, Bruno?
Oh, ben, ils ont couru avec le ballon, c'est clair, là. Le'Veon Bell a eu un match sensationnel. On a carrément piétiné. C'est ça qu'on a fait. On a travaillé. On a été plus solide. On a gagné la guerre de la robustesse. Et ça a donné pour une victoire impressionnante sur la route. Les Steelers avaient besoin de ça, là. Ils s'étaient fait battre par les Jags la semaine précédente chez eux. Big Ben a été bon aussi. Donc, c'est, on a combiné un paquet de bonnes choses, mais surtout, c'est l'attaque au sol qui a bien fonctionné. La victoire qui m'a impressionné, c'est celle des Giants.
Ben oui.
Hey, il y avait 10 joueurs, dont 8 partants, qui n'étaient pas du match. 4 receveurs des Giants, dont Odell Beckham, Marshall et Shepard, qui sont leurs 3 réguliers, étaient blessés pour le match. Il nous manquait un joueur de centre, il nous manquait notre porteur de ballon partant, il nous manquait un secondaire, 2 alliés défensifs, puis un demi-défensif partant. Imagine, on est allé battre les Broncos chez eux. Moi, il y a rien qui me disait que les Giants étaient pour gagner. Plus que ça, je m'étais dit, s'ils veulent gagner, il faut voir que la défense des Giants blanchisse l'adversaire. Mais c'est presque ça qu'ils ont fait, Mario. Ils ont joué tout un match défensivement. Ils ont cru alors que personne ne croyait en eux. Puis c'est la preuve qu'il faut jouer les matchs puis jamais rien prendre pour acquis, surtout dans la NFL, dans le sport professionnel. Peu importe le nombre de blessés, ça commence à 0-0, puis c'est à un moment donné, c'est l'équipe qui le veut le plus, puis l'équipe qui va éviter les revirements, qui va finir par gagner un match de football, et c'est exactement ce qui s'est passé du côté de Denver. Grosse victoire pour les Giants. Je ne sais pas si ça replace leur saison, mais ça achète du temps à Ben McAdoo.
D'autre part, en terminant, comment les Packers vont-ils se relever de la sérieuse blessure subie par leur quart arrière Aaron Rodgers, Bruno?
Ouais, j'ai bien hâte de voir, mais écoute, je suis pas loin de... Tu sais, c'est rare, tu vas dire qu'un joueur fait une équipe, là, mais je parle que d'Aaron Rodgers, ça se peut que ce soit ça, là. J'ai bien hâte de voir comment on va se remettre de ça. On y va avec Hundley, le carrière de 3e année. On dit que ça va être lui notre partant. Ça n'a pas été concluant. Ceci étant dit, à sa décharge, il y a un peu eu de répétition. Je vais m'attendre d'analyser ce qui se passe la semaine prochaine du côté des Packers, mais ça, dans une division extrêmement compétitive. Moi, je pense que ça veut peut-être dire qu'il manque les éliminatoires à partir de maintenant, là.
Et on regarde Tennessee contre Indianapolis ce soir, le football du lundi soir. Bruno, on s'en reparle demain, sans aucun doute. Merci beaucoup d'avoir été là.
Hey, salut Mario, bonne soirée tout le monde.
Une excellente soirée. Soccer maintenant, outre l'affrontement canadien-Leafs au hockey, il y avait l'affrontement Impact-Toronto FC au soccer, et il faut croire que l'Impact a emprunté à la recette du Canadien. C'est ce qui donne lieu à des commentaires du genre aujourd'hui. Ben, l'Impact méritait ce match-là. Bonsoir Jérémy.
Salut Mario.
De retour de Toronto, parce oui. que c'est vrai que l'Impact a joué un bon match hier.
Bon match.
Ils ont raté des occasions de marquer incroyables, entre autres les 2 poteaux. Là, ça,
oui.
C'était celui qui était le plus flagrant. Là.
Oui, et Matteo Mancosu, on est en train de renommer Matteo manque son coup parce que il marque tellement pas souvent. Écoute, il y a eu 5 chances en or hier. Il n'y en a pas mis une dedans, malheureusement. On a rarement dit cette année que l'Impact méritait mieux, mais là, hier, vraiment, il méritait mieux. Ils ont joué un bon match. Ils ont même mieux joué que Toronto FC, qui avait son alignement A sur le terrain. Et l'Impact était sans Piatti, sans Duval, sans Lovitz. Ils se sont bien débrouillés. Puis moi, Mario, ça me fait réfléchir à une chose. Là, l'Impact n'avait pas joué la semaine dernière, donc ils ont eu 2 semaines de repos, le club a eu l'air vraiment revigoré. Je pense que c'est clair maintenant, aujourd'hui, que ce club-là, il y avait une fatigue accumulée qui date de la fin de la dernière saison. Les cadres de cette équipe-là ont beaucoup joué cette année. Je pense à Jim Ailey qui avait joué l'Euro durant l'été. Il a joué toute la saison complète en Italie. Il n'a jamais arrêté. Il a continué avec l'Impact. Ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas arrêté de jouer, ce gars-là. Ça fait en sorte que on s'en est rendu compte hier. Ils ont été beaucoup plus combatifs. Ils ont gagné des batailles. Malheureusement, il est trop tard, là.
Quel était l'objectif de Mauro Biello en se rendant à Toronto hier?
Ben, je pense qu'il voulait gagner ce match-là, essayer de freiner les ardeurs du Toronto FC qui tente de fracasser un record de tous les temps pour le nombre de points dans une saison régulière à MLS. Mais il a quand même donné un départ à Maxime Crépeau, quand même donné un départ à Balou. Ça n'a pas été très convaincant. Il y avait une couple de jeunes sur le banc que j'aurais aimé voir. Louis Bélan-Goyette, même peut-être le jeune Chamid Chaume, mais je pense que peut-être que Biello s'est dit que ce serait peut-être un peu trop d'envoyer tous ces jeunes-là en même temps. Peut-être que certains de ces gars-là vont jouer le dernier match de la saison, mais au moins on a eu la chance de voir Crépeau qu'on n'aurait probablement pas eu la chance de voir.
Et un dernier match contre Toronto pour le capitaine Patrice Bernier, avant-dernier match en carrière.
Oui, j'ai bien aimé le message sur Twitter du Toronto FC qui a clamé et qui a salué la carrière de Patrice Bernier en lui souhaitant une bonne retraite, en en indiquant qu'il était un des plus grands joueurs de soccer de l'histoire du Canada, mais aussi un valeureux guerrier et ennemi et adversaire qu'on a apprécié se détester. Malheureusement pour Patrice, je pense que cette année, il aurait aimé au moins en finale du championnat canadien pouvoir terminer sur une note plus positive. Là.
Au plan sportif, vu de Montréal, Toronto est souvent l'ennemi, mais si on regarde ce qu'ils ont construit comme équipe, le Toronto FC, oui. C'est sûr, à coups de millions, avec oui. de grosses acquisitions, avec Jovenko en tête et Altidor,
oui.
mais ça marche. Il y a de l'ambiance, là, hein? C'est pas possible.
Ben écoute, ça a pris 7 ans. Hein? Les 7 ouais. premières années MLS, aucune série, pas un seul match. Et là, à un moment donné, ils se sont réveillés. MLSI a mis beaucoup d'argent dans le produit. On a rénové le stade. Mais c'est surtout au niveau de la profondeur. Tu sais, tantôt, quand je disais que l'Impact était fatigué, tu sais, Biello, il n'y a pas le luxe de reposer Piatti. Il n'y a pas le luxe de reposer Zemaili. Il y a besoin de ces gars-là pour se donner une chance de gagner soir après soir. Tandis que du côté du Toronto FC, tu sais, t'as Jonathan Osorio, t'as Saint Ricketts. Tu peux dire à Altidor un soir, hey, regarde, prends une soirée de congé, là. Ricketts va y aller. Il est capable de marquer des buts. Osorio capable de faire. Donc, au niveau de la profondeur, je pense que l'Impact doit apprendre de sérieuses leçons de l'hiver dernier. Quand t'as une entre-saison aussi courte, t'es mieux de rafraîchir tes jambes pour la saison prochaine, parce que si t'es pas une équipe qui dépense beaucoup, ça va finir par te rattraper.
Mais tu sais, Jérémy, à la suite de tes remarques concernant le niveau de fatigue, puis je oui. ne les conteste pas, t'es mieux placé que moi pour observer ça chez les joueurs, toi qui décris l'action de ces gars-là à chacun des matchs. Mais imagine si on avait avancé en CONCACAF, ça aurait été en catastrophe. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère avec cet élément-là, qu'on soit fatigué. Comment que t'affrontes ça? Le Toronto, là, les autres aussi ont des gars qui jouent sur la scène internationale puis sont en championnat canadien puis en CONCACAF puis ils ont pas l'air d'être fatigués ben là.
Ils ont l'élément profondeur comme j'ai mentionné oui. où tu peux te servir des gars qui sont sur le banc puis ils te donnent des bons rendements. Jovinko, ton meilleur joueur, il est pas dans l'équipe nationale italienne.
C'est vrai.
Lui, il se repose. T'as Bradley et Altidor qui jouent avec l'équipe américaine. Normalement, les voyages sont pas très loin pour aller jouer des matchs amicaux. Tandis que, tu sais, nous, on a Simon, Zemaili, Oyongo, ils s'en vont à l'autre bout du monde.
C'est vrai, beaucoup
entre
de voyages.
Deux matchs, ils traversent le continent, tu sais, c'est pas très, très logique, mais à ce niveau-là, vraiment, il faut prendre des notes parce qu'on se rend compte de plus en plus en MLS que si t'es pas une équipe qui va dépenser énormément, si t'es une équipe de milieu de peloton et que tu termines la saison tard, comme ça a été le cas pour l'Impact l'année passée, le 1er décembre, et que le camp d'entraînement recommence le 21 janvier, t'es mieux de faire un bon magasinage hivernal, aller chercher des jambes fraîches, parce que la saison suivante, les gars vont être fatigués, puis on a la preuve cette année.
Encore un match pour l'Impact cette saison. Oui. On s'en parle cette semaine, Jérémy.
Parfait.
Merci beaucoup.
Merci.
Dans quelques instants, je vous présente l'entretien qu'a réalisé notre collègue Martin Maguire en compagnie de Georges Saint-Pierre au Centre Bell samedi.